On est de retour dans Trudeau Landry. On va. Il y a beaucoup de choses qu'on suit en ce moment. Notamment, là, il y a le premier ministre et le ministre de la Famille qui sont en train d'annoncer un important plan. On parle de plusieurs milliards de dollars, 3 milliards au cours des 4 prochaines années pour améliorer les services de garde. Il se passe des choses sur le terrain. Dans un instant, on va aller voir les réactions de Marie-Josée Savard et de Jean-François Gosselin qui ont donné des points de presse un peu plus tôt sur le débat d'hier. Je veux juste clore notre discussion sur la réaction des infirmières à l'arrêté ministériel qui vient fixer les balises là pour l'obtention et la rétention des bourses, parce que ça a l'air des primes, parce que ça a l'air que tu peux perdre ça. Je faisais référence à une personne que je connais, une collègue de travail de ma conjointe. Je la salue, Audrey Marceau. Elle a fait une publication sur Facebook qui est devenue pas mal virale, je te dirais. Audrey est la mère de deux jeunes adolescents. Je les connais bien, ils gardent mes enfants. Là. Tu sais, je connais leur réalité. Et elle a répondu ceci, je vais te lire un extrait de son message sur Facebook. Elle dit, il est où le problème, vous allez me dire? Tu travailles à temps plein, tu auras droit à la prime. Ben non, parce que vous voyez, je suis infirmière au bloc opératoire. Et ça vient avec des gardes de nuit. Parfois, pour sauver un père, une mère, un enfant et même des bébés naissants, eh bien, je travaille toute la nuit. Vous comprendrez que le lendemain, je ne suis pas apte à faire ma journée de travail. Donc, ma convention m'autorise à prendre un congé autorisé sans solde. Donc, selon vos critères, je passe une nuit debout au travail et je dois rembourser votre remerciement de 15 000 $.
Ça, tu m'apprends. Ça, je savais pas ça. Que, tu sais, que c'était comme... Tu sais, dans d'autres milieux de travail, prendre un sans solde, c'est parce que t'as tout épuisé tes affaires, puis là, tu dis ça avec ton boss. Puis... Mais eux autres, c'est dans la convention collective, si ils font deux chiffres collés, mettons, la veille. Vois-tu ça, ce détail-là? J'étais pas au courant de ça.
C'est ça.
Intéressant.
Parce que, tu sais, il y a des médecins qui vont être, mettons, de garde à l'hôpital, mais il n'y a pas toujours du monde stand-by pour les assister au bloc. Donc, le médecin, lui, est là, il va faire des consultations et tout ça. Et là, si à un moment donné, ils ont besoin de monde, ben là, ils appellent ceux qui sont de garde à la maison. Ils s'en viennent, chapeau de roue, en plein milieu de la nuit. Finalement, ils peuvent opérer toute la nuit. Mais si la personne avait travaillé 8, 10, 12, 14 heures dans la journée, puis qu'elle rentre travailler toute la nuit, la convention lui donne le droit de prendre congé le lendemain, un lendemain de garde, mais sans solde.
C'est ça, c'est ça.
Et j'ai vu d'autres témoignages là, sur Twitter de gens qui allaient dans ce sens-là. Moi, je veux bien donner le bénéfice du doute à Christian Dubé, mais je relis les passages du texte qu'on avait obtenu hier de l'arrêté ministériel. C'est clairement mentionné. C'est pas une interprétation syndicale. Oui, vous pouvez demander des congés. Congés maladie, fériés, jours de congé. Mais pour les sans-soldes, vous perdez votre admissibilité. Et si vous perdez votre admissibilité, vous devez rembourser les sommes qui ont été remises.
Mais c'est un détail important parce que de l'extérieur, nous autres, dans notre domaine, mettons, quelqu'un qui prend un sans-solde, ça peut être vu que, ah, ouais, c'est la coule douche aujourd'hui, là. Il n'y a plus de vacances, mais il a décidé de prendre un congé aujourd'hui. C'est comme un peu, ça peut être vu comme un genre de luxe, un peu, dans certains milieux de travail. Alors que, expliquer comme ça, dans le milieu de la santé, c'est une nécessité, exactement ça.
Alors, voilà, je salue Audrey et toutes ses collègues et j'invite le ministre à clarifier la situation au-delà d'un tweet, peut-être, là, je pense, parce que c'est en train de vraiment déraper cette histoire-là de primes qui devait être un incitatif à ramener des gens en emploi. OK, notre collègue Félix-Antoine Audet qui se joint à nous. Salut Félix!
Salut Jonathan!
Il y avait, des candidats à la mairie qui étaient sur le terrain, qui faisaient des annonces, qui prenaient des engagements, mais qui surtout réagissaient au débat de la veille. Jean-François Gosselin a été le premier à le faire un peu plus tôt ce matin, en avant-midi. On a quelques extraits à entendre, notamment sa réaction au débat, Félix?
Oui, évidemment, ça n'a pas été long dans la période de questions qu'on est allé lui demander. Bon, plusieurs observateurs le considéraient comme un des gagnants du débat. Comment est-ce qu'il réagissait à ça? On écoute sa réponse.
Je vais vous laisser juger, évidemment. Moi, je suis très content. Très, très, très content du débat hier, de ma performance. Puis aussi, je dois vous dire que, oui, j'étais bien préparé. Une équipe autour de ça. Ça fait 4 ans aussi qu'on se préparait pour la soirée d'hier soir. Je le savais depuis 2017, l'importance du débat d'hier soir. C'est vraiment... Le débat de 2017, j'ai vu ce que ça a eu comme impact après ça, dans les jours suivants, sur le terrain. Je savais que le débat d'hier soir était très important. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, c'était mon 7e match de la Coupe Stanley hier soir.
Bon, reste à voir s'il aura convaincu suffisamment de gens pour faire bouger l'aiguille, mais lui, il a été attaqué beaucoup sur son projet de métro léger et il a répliqué à certaines attaques aujourd'hui.
Oui, c'était vraiment le sujet des questions, les autres questions sur le débat, c'est comment il réagissait aux attaques sur le métro, entre autres, les coûts, est-ce qu'il est réaliste. Et il est allé des mêmes explications habituelles, disant que les chiffres étaient de son côté.
Mais les faits sont de notre côté. Ça existe, des projets de métro léger entre 150 et 175 millions du kilomètre. C'est le bureau de projet du tramway qui l'a avoué du bout des lèvres durant les audiences du BAP. Donc nous, on n'invente absolument rien. Puis la ville de Rennes, la ville de Toulouse, Lausanne, on a parlé au directeur à Lausanne. Le tramway de Québec est à 174 millions du kilomètre. Il avait été annoncé à 87 millions du kilomètre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est les faits parlent par eux-mêmes. Les chiffres ne mentent pas, comme le score de 4 sur 10 hier.
Oh, oh, le petit jab à la
je
fin.
Je comprends sans ça. Oui, aussi, c'est épouvantable, la performance de Mme Savard au quiz. Ces chiffres-là qu'il vient de décrire en passant, de mémoire, la ville n'a jamais contesté ça. Là.
Non.
Mais en même temps, c'est une là. Ligne ou deux dans un rapport. T'sais, ça prend... ça en prend plus. Là. Je sais que Jean-François Gosselin nous parlait du promontoire et qu'on a dans le fond le sol parfait pour faire ça.
Ben, c'est probablement vrai, Québec
mais
est sur le
ça prendrait. C'est sûr que lorsqu'il se fait dire, vous affirmez que ça va coûter exactement le même montant que le tramway, c'est vrai que moi, je demeure quand même être convaincu. Il faudrait aller plus en profondeur, mais peut-être, qui sait qu'on aura... on va y venir parce que Jean-François Gosselin voudrait parler plus en profondeur, parler davantage de son projet, mais il a répondu à une autre attaque qui a été faite sur son projet, cette fois-ci par Bruno Marchand, qui avait cité son entrevue qu'il a effectuée avec nous en 93.
Oui, il parlait notamment des deux tunneliers. On l'a questionné un peu là-dessus, mais il est surtout revenu un peu sur l'attitude qu'il jugeait de Bruno Marchand en disant qu'il avait l'impression que il jugeait qu'on pouvait pas faire de grands projets à Québec. Je vous laisse écouter.
Je trouve ça un peu spécial de candidat à la mairie de Québec de penser que Québec on n'est pas capable de faire des grands projets comme ça se fait ailleurs. Je pense exactement le contraire. Quand on aura fini notre projet, quand il sera en exécution, je vous prédis une chose, on s'en reparlera dans ce temps-là. On va être rendu en 2028, 2029. Hein? Okay. On va être rendu un leader mondial pour le transport en commun. Les gens de partout sur la planète, comme c'est le cas présentement à Rennes, en passant, là, les gens se tournent vers Rennes, vont voir ce que Rennes fait. Comme nous, on a fait, on s'est inspiré de Rennes. Et là, ça va être Québec. Ça sera plus Rennes, ça va être Québec.
C'est quoi? Il fait ça dessus sur la table? Ou...
Hey, je sais pas, honnêtement, mais tous les clips et l'enfer, ils gogossent après. Ils
gossent après quelque chose.
Oui, on l'entend. On dirait qu'il y a un hamster qui est pogné.
Oui, il y a quelque chose.
Mais en même temps, je comprends qu'il s'en prenne à son adversaire, Bruno Marchand, mais quand il dit que Bruno Marchand pense pas que la Ville de Québec peut réaliser des grands projets, Bruno Marchand est quand même derrière le projet de tramway qui est pas,
Une bédrie. Non, mais Joe,
3,3 milliards, c'est pas... Il croit, Bruno Marchand, à ce projet-là. Là, donc, il croit pas à celui de Jean-François Gosselin.
Mais je voudrais savoir pourquoi. Parce que c'est comme si ça se faisait pas un métro. C'est comme si, voyons, un métro. Ben, pourquoi? Ah, t'sais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ridiculisent ça. Des métros, il y en a partout dans le monde.
Oh oui.
Je veux dire, à un moment donné...
J'ai été surpris d'entendre Jean-François Gosselin en entrevue avec nous dire que non seulement il respecterait les coûts coûte que coûte, mais qu'en plus, il pense qu'il peut le faire avec deux tunneliers qui partent de chaque bout pour le même prix.
Ben, c'est quasiment trop beau pour être vrai. C'est ça le problème de ce projet-là. C'est qu'il n'y a pas assez de détails, puis des fois, ça a l'air trop beau pour être vrai. Mais le problème, c'est que ses adversaires dénigrent ça comme si c'était complètement farfelu. Si un métro est farfelu, peut-être qu'un tramway est farfelu aussi à Québec. Il ne faudrait peut-être pas perdre ça de vue. Non.
Bref, Jean-François Gosselin voudrait en débattre davantage et il a lancé un défi à ses adversaires.
Oui, ben ce qu'il mentionnait essentiellement, c'est que c'est bien beau le débat d'hier, mais en 45 secondes puis des courts segments, c'est difficile de débattre d'un des enjeux majeurs de la campagne. Il a donc défié chacun de ses opposants à se rencontrer pour un débat d'une heure, une heure et demie, essentiellement sur le transport en commun, où chacun peut défendre sa vision, que ce soit les différentes versions du tramway ou le métro léger qu'il a. Il a donné un exemple Jean Rousseau. Il dit « J'aurais bien aimé l'attaquer durant le débat en disant « Bon, il veut garder des arbres, mais en faisant le tramway, comment il veut faire ça? » C'est le genre de questions qu'il veut pouvoir aborder autant sur les projets de tramway que sur le projet de métro léger.
Et Marie-Josée Savard a réagi.
Oui, elle a réagi et elle s'est montrée quand même relativement ouverte à l'idée.
Ben, moi, de débattre sur le transport, j'ai aucun souci. Maintenant, quand ils disent chacun des candidats à débattre de leur projet, moi, je comprends que c'est surtout M. Gosselin qui veut vendre le sien, là. Mais de débattre sur le transport, moi, j'ai vraiment aucun problème. Là.
OK. Évidemment, vous avez questionné Marie-Josée Savard sur sa performance au débat, entre autres le quiz, elle qui a eu 4 bonnes réponses sur 10, dont une mauvaise réponse à la question sur l'ampleur de la dette à la Ville de Québec. Hier, elle disait qu'elle était satisfaite de sa performance. Vous lui avez quoi reposer la question aujourd'hui?
Dans le fond, la première fois qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait, elle s'est jugée satisfaite. Elle disait ça comme ça, et on est revenu à la charge en disant... Là, il y a plusieurs observateurs qui vous déclarent quand même étant la grande perdante du débat.
Les observateurs sont quand même assez polis, là, Journal de Québec ce matin. Là. Elle a même eu la note de passage.
J'ai parlé de malaise. Moi, j'ai eu un malaise.
Ben, il y en a... Ouais. Moi, mon impression, c'était peut-être un peu ça aussi à cette réponse, à cette deuxième question.
Quand je vous dis que je suis satisfaite, c'est que moi, je sais que j'ai livré, en tout cas, du moins, j'ai essayé de livrer toutes les informations, toutes les la pertinence des dossiers, tout ce qu'on a pu faire, le bilan, comme je vous disais, défendre le bilan. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Sûrement. Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Aussi. Donc, honnêtement, moi, pour l'instant, je suis satisfaite du travail que j'ai fait, puis je pense que mes collègues le sont aussi, alors par main d'applaudissements. Merci, voilà.
Je suis fessé un peu, là. J'étais un peu... Est-ce que... J'ai une question, je le lance comme ça... Est-ce que Louis Côté est toujours derrière Équipe La Bombe? Ou... Parce que là, je suis obligé de vous dire là, ce que tu viens de nous faire entendre. Là, je me dis, OK, là. De dire que ça a bien été alors que 4 sur 10, c'est pas...
Ben, sur toutes
moi, quand
les
j'avais
questions...
4 sur 10 à l'école, là, ça allait pas bien. Mon père était pas content. Là.
Les questions du débat, on sentait quand même un peu d'hésitation puis d'incertitude là, quand on lui a demandé. Puis les deux fois qu'elle répondait, c'était un peu ce même genre d'attitude-là. Elle veut pas dire qu'elle s'est plantée, mais elle a un certain malaise parce à dire qu'elle a réussi.
Là, on dirait que le message et le packaging de la communication puis des points de presse puis du débat, non, c'est pas ce qu'on a connu depuis 2007, je vous dirais.
Parce que, je le répète, au-delà du 4 sur 10, de façon générale, la performance... À combien de reprises Marc-José Savard a terminé des échanges avec un adversaire ou un autre en riant puis en voulant dire comme en tout cas, tu sais, c'est ça vous pensez, en tout cas, c'est... Ça tombait à plat très 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 souvent. Ceci étant dit, on n'a pas beaucoup parlé de Bruno Marchand. Moi, il s'en est bien tiré, mais il restait beaucoup trop sur les lignes côté. J'ai trouvé que pour quelqu'un qui est aussi en retard dans les sondages, il aurait dû, parce qu'il est efficace quand il va à l'offensive, ouais. Mais il y a des moments où même Bruno Savard disait, là, hey, les autres, embarquez aussi dans le débat, là. C'est un débat, vous avez le droit de vous embarquer quand vous voulez. Je pense qu'il n'y avait pas assez le couteau entre les dents.
Non, il s'est pas fait mal, mais je pense pas qu'il ait convaincu tant de monde que ça hier. Je pas sûr que l'aiguille va bouger beaucoup à cause de ça. Elle va peut-être bouger pour d'autres raisons, je sais pas. Mais il s'est pas endommagé. T'sais, il s'est pas endommagé, mais je suis pas sûr qu'il a fait beaucoup de nouveaux adeptes hier.
Puis, je pense que celui qui a le mieux performé, c'est Jean-François Gosselin. Maintenant, je le répète, est-ce que c'est assez pour faire changer une masse critique de gens pour modifier le portrait actuel dans les sondages? On verra. Il y aura d'autres sondages. On a été les premiers à le faire la semaine dernière. Mais assurément, il y a peut-être des gens qui vont se poser des questions à ce débat-là. Merci, Félix.
Un plaisir.
Hey, juste avant d'aller à la pause, je vais vous dire un fait divers que je suis du coin de l'œil. Je trouve ça très intriguant, ce qui se passe du côté de Montmagny, à Saint-Fabien-de-Panay. Il y a peut-être des gens qui se souviennent d'un meurtre qui avait été commis, imaginez, il y a plus de 20 ans de ça. C'est Lucie Castonguay, en décembre 99, 42 ans. Une jeune mère de famille sans histoire qui avait été poignardée à mort à son domicile de Saint-Fabien-de-Panay. Ça avait causé la commotion dans ce petit village-là. Et il n'y a pas personne qui avait été arrêté relativement à cet homicide-là. Et en 2019, mon ancienne collègue Marie-Christine Bergeron, qui était à la tête de JE à l'époque, Marie-Christine, excellente journaliste à LCN et à TVA.
Qui est plus là, hein? On la voit plus.
Non, c'est ça, mais je lui ai parlé aujourd'hui, puis elle a des projets. Okay, on va la revoir assurément. Marie-Christine se cherchait ce qu'on appelle dans le jargon un cold case, tu sais, voir un dossier qu'on peut essayer de réveiller, de raviver. Elle est tombée sur ce dossier-là et avait présenté en 2019 à JE une émission sur ce cas-là. Et après ça, il semblerait que le téléphone s'est mis à sonner comme si tout le monde dans le village avait quelque chose à dire sur cette histoire-là, à un point tel que, bon, elle a fait la courroie de transmission avec les policiers. Et là, ce matin... Imagine, plus de 20 ans plus tard, on a mis en place un poste de commandement là-bas. Et il y a une personne, un dénommé Marcel Chabot, 51 ans, qui a été intercepté par les forces de l'ordre ce matin à Saint-Jean-Port-Joli. Il est considéré comme un témoin important. Donc, pas d'accusation, pas d'arrestation en bonne et due forme, mais il y a un poste de commandement qui est érigé là. Et peut-être vous rappeler aussi que l'ex-mari de Lucie Castonguay à cette époque-là, Marc Mercier, lui, était rapidement, on dit, tombé dans la mire des enquêteurs à l'époque, à un point tel que ses garçons l'avaient même confronté en lui demandant carrément si c'est lui qui avait tué leur mère, avait jamais répondu à ça et a toujours refusé de subir le polygraphe. C'est un homme âgé de 64 ans, un poste de commandement qui, de ce que je comprends, est pas très loin d'où il reste, M. Mercier.
Un suspect d'intérêt là, qui...
Donc, il y a un témoin, ouais. M. Chabot, qui, lui, a été rencontré par la police. Qu'en est-il de Marc Mercier, lui, son ancien conjoint? Bref, 22 ans plus tard, je trouve ça intéressant, je voulais le mentionner parce que ça démontre que le journalisme de qualité, des fois, peut faire changer les choses.
Clairement.
20 ans plus tard, clairement. Un reportage à J.E. qui a réactivé l'enquête. Et là, ben, est-ce qu'on va voir des dénouements ou des développements? Ça va être à suivre.
Puis, hier, on parlait de la pertinence de donner les détails du procès de celle qui a martyrisé la fillette à Granby. Là. Évidemment, c'est pas deux causes semblables, mais des fois, c'est avec des détails. Soit tu vas faire avancer une cause, ou soit tu vas faire débloquer une enquête avec un détail, des fois, bien spécifique.
T'sais. Exact, exact. Donc, bravo à tous ces journalistes particulièrement. À ma collègue, mon ancienne collègue et amie, Marie-Christine Bergeron. Il est 13h42, on fait une pause et on vient.